Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette émission Regarde ailleurs donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde. En tant que photographe, voyageur, j'ai cette chance de faire de sublimes rencontres, souvent étonnantes. L'une d'entre elles est Cara, que j'ai rencontrée dans un écolodge au Maroc, lorsque je me baladais sur les plages entre Essaouira et Agadir. Cara travaillait dans un lodge avec son compagnon. Cara est australienne, un pays qui fait rêver de nombreux jeunes en quête de découvertes et d'aventures. Et j'ai retrouvé Cara en France, en Alsace, dans la région où j'habite, où elle a choisi de créer un restaurant ici. Donc voilà, cette émission lui donne la parole. Rencontre avec Cara, une Australienne qui a fait le choix de venir vivre ici en France. Et Cara, toi, je t'ai rencontré il y a quelques années de ça au Maroc, quand tu gérais une guest house qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe encore, L'Anver, qui s'appelle L'Anver. Tu étais là, tu étais rayonnante, tu étais joyeuse, tu étais au fourneau, à la cuisine, en train de préparer un bouquin de cuisine, de recettes du monde, et tu étais voyageuse avant tout. Je te retrouve là dans la région Alsace, où tu t'es établie maintenant, après avoir passé presque 2 ans ici, je pense. Et sur une soirée, on s'est dit, tiens, on va prendre le temps de se rencontrer via ce micro. Donc avec toi, auditeur, l'idée, c'est de tout comprendre de l'histoire de Cara, qui incarne le mouvement, qui incarne le voyage, et qui va pouvoir s'exprimer merveilleusement bien dans notre langue. Bonjour, voilà. Cara.
Bonjour, je vais essayer.
Alors on va revenir peut-être sur on va commencer par ton histoire, ton itinéraire personnel. Donc tu es pas né là, tu es né en Australie, tout là-bas. Je crois que c'est un des pays les plus loin qu'on puisse trouver de chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit je vais quitter mon pays pour voir ce qui se passe au-delà des frontières? Reviens un peu sur ton enfance, ton parcours et cette envie que tu as eue de te mettre en mouvement.
Je suis moitié polonaise. Donc en fait, ma mère elle est polonaise et j'avais toujours envie. Je suis née en Australie, je grandis en Australie. Mais j'étais dans cette culture polonaise et donc j'avais toujours envie de partir de l'Australie et de voir l'autre moitié de moi. Donc je suis partie quand j'avais 18 ans et j'ai passé 6 mois en Pologne et j'ai tombé complètement amoureuse de l'Europe. Je voyageais un peu en Allemagne aussi et j'ai tombé amoureuse du pain en Allemagne parce que j'avais jamais goûté le pain aussi bon, je me souviens de ça. J'ai voyagé en Europe pendant, je crois que c'était 8 mois. Et au bout de 8 mois, j'ai décidé de retourner en Australie. Il fallait économiser l'argent. Et donc, j'ai retourné en Australie et j'ai tombé sur une chance incroyable à 20 ans. Et j'ai ouvert un restaurant. J'avais repris un restaurant d'un vieux monsieur, il était allemand. Et il avait ce restaurant, il était ouvert 2 jours par semaine. Il n'avait aucun patient. Et le lieu était magique. C'était comme on imagine en Australie. On était dans la forêt tropicale. Tu as pris ton petit déjeuner, ton déjeuner. Il y avait des feuilles de palmier qui sont tombées sur ton assiette. Genre, c'était vraiment le cliché. Et en fait, j'ai vu le lieu et j'étais tellement déçue que cet homme, il a ce truc magique et il n'avait plus de patient. Et je trouvais ça triste. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais à 20 ans, je lui ai dit, écoute, je peux le louer de toi, je peux le faire. Et il était d'accord. Et donc, j'ouvrais ce restaurant et c'était dur, c'était beaucoup de boulot pour quelqu'un à 20 ans quand tu as tout le monde qui part, fait la fête. Tous mes amis, ils ont fait la fête le week-end et moi, à 6 heures, j'étais au boulot en train de préparer du café, des œufs brûlés, de tout ça, tout le week-end. Et en fait, j'avais rencontré un petit Français, c'était un voyageur. Et il était en cuisine, il était breton. Et je l'embauchais pour faire la cuisine chez moi, il était chef de cuisine, on va dire. Et je tombais amoureuse de lui, complètement. Et donc, pour mon premier amour, j'étais complètement aveugle. Et il a dû partir parce que c'était la fin de son visa. Et donc moi, comme une jeune fille complètement amoureuse, je dis, écoute, est-ce que je peux te suivre? Et j'ai quitté mon restaurant, j'ai donné à ma mère, je ne sais plus. Mais j'avais un business qui tournait à 20 ans, on s'en fout. Et j'ai tout lâché et je l'ai suivi en France. Et ça, pour moi, c'était vraiment le début de mon expérience, de vraiment commencer à voyager et d'avoir quitté l'Australie.
Donc toi, c'est vraiment l'amour qui t'a emmené sur les routes du monde.
Ouais, ah, j'aime pas dire ça, mais oui, ben oui, c'était l'amour, mais c'est cliché, hein, mais c'est souvent ça, et c'est aussi, on peut dire plein de choses sur l'amour et sur la rupture et tout, mais c'est beau, cette côté de l'amour, que des fois, ça nous fait, ça nous rend aveugles, et on suit la passion, on suit la route, on suit le chemin, et ça fait partie un peu de la vie, je crois.
Donc c'est comme ça que tu t'es mise à apprendre le français aussi, c'est grâce à cette rencontre, quand tu avais 20 ans, où tu t'es dit, tiens, je vais me mettre à apprendre cette langue.
Oui. Pas tout de suite, parce que, comme je dis, j'étais aveugle, j'arrivais en France, je savais dire « Bonjour, ça va, je m'appelle Cara, voulez-vous coucher avec moi grâce à cette belle chanson ?» Mais ça, c'était tout. Et j'arrivais en Bretagne, et en fait, entre nous, on a parlé anglais avec mon copain et moi. Donc, j'ai pas commencé à vraiment apprendre le français en Bretagne. C'était vraiment, vraiment limité. Mais j'ai pris des bases, et je me souviens... J'ai pris un petit boulot, j'étais plongeuse. Et imagine quelqu'un qui était gérant, qui était propriétaire d'un restaurant, de se trouver à faire la plonge pour quelqu'un d'autre. C'était un peu un baume à mon ego, mais qui est bien à 20 ans. Ça te remet dans ta place. Et ouais, j'arrivais, je bossais là et je savais même pas comment dire vaisselle. Je savais pas comment dire sale, propre. Tu vois, j'étais genre complètement pavée. Ensuite, le début de mon chemin de la langue française, le début de commencer à apprendre le français, c'était vraiment Maroc. C'est quand j'arrivais au Maroc. Parce que j'avais des petites bases en Bretagne, mais c'était pas un passion, c'était pas important pour moi d'apprendre français parce que mon copain et on a parlé anglais. Et quand j'ai arrivé au Maroc, je suis tombée complètement amoureuse de ce pays. Et le Marocain, il parle super lentement. Donc, tu as plus de confiance, tu as moins peur. Les conversations sont plus longues, sont plus faciles à comprendre. Donc, tu as l'impression que tu parles super bien. Et puis, tu parles avec un Français ou une Française et tu fais « Ah mince, non, pas encore
ouais. ». Là, quand tu arrives en Bretagne, donc tu as 20 ans, tu restes combien de temps à ce moment-là en France avant de repartir?
J'ai resté... je crois que j'étais là entre 9 mois et 1 an, on va dire 1 an. C'était pas si longtemps. Et quand j'arrivais là-bas, la mère de mon copain à l'époque, elle était très malade. Et elle a eu de cancer de cerveau. Et donc, c'était assez difficile. Et l'ambiance était difficile à la maison. Et je crois pour mon copain, c'était en relation, c'était pas vraiment en priorité, que je comprends tout à fait. Donc, ça s'est pas très bien marché entre nous. Et avant de quitter là-bas, donc nous, on s'est séparés. Mais avant de quitter l'Europe, je voulais voyager un peu plus. Et j'avais une copine qui habitait au Maroc. Et c'est pour ça que je fais Bretagne-Maroc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ce qui est intéressant avec ton pays, l'Australie, je sais qu'il y a énormément de Français, de jeunes Français qui vont voyager là-bas, hein, qui font un peu leur voyage initiatique. Beaucoup de jeunes Français parlent de l'Australie avec des étoiles dans les yeux. Et donc une envie, c'est de pouvoir y vivre et de s'y installer. Mais toi, tu as fait le chemin inverse, tu es venu en Europe. Donc qu'est-ce qui, toi, t'a mis des étoiles dans les yeux ici en Europe ?
Oh, c'est une bonne question. Mais déjà, il faut qu'on fasse l'échange. Il faut que les gens partent chez eux. Tu vois, il faut qu'il y a le balance dans le monde. Qu'est-ce qui me fait les étoiles? Les différences de culture, la langue, l'apéritif. Il y a plein de choses, c'est que ça soit plus exotique. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, donc ça commence à être moins exotique, mais en début, c'est des choses qu'on a vues uniquement dans la film. Genre, quand j'étais à Paris et je traversais une rue et j'ai entendu La vie en rose d'Edith Piaf qui est sortie sur la rue, mais moi, j'ai failli tomber par terre. Mais c'était un cliché. Peut-être c'est le cliché qui me donne des étoiles. C'est un total.
On va s'intéresser à cette étape Maroc qui a pris quand même pas mal de temps, d'énergie aussi dans ta vie. Donc une amie te parle du Maroc, tu vas là-bas et tu parles d'un deuxième coup de foudre. Donc déjà l'Europe t'a beaucoup plu, mais le Maroc aussi. Qu'est-ce qui t'a mis des étoiles dans les yeux là-bas et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses d'y rester et que tu crées une guest house, un hôtel, un restaurant là-bas?
Bah, Maroc, c'était vraiment l'exotisme. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. J'étais là pendant 7 ans, pendant une grande période de 7 ans. Ouais, le Maroc, c'était la vie simple, c'était les ânes, c'était la langue. J'ai adoré, je suis tombée complètement amoureuse de la langue berbère et d'apprendre cette langue très atypique qu'ils n'ont pas l'habitude d'apprendre aux étrangers. C'était la mer, le couscous, le tagine, le... Ouais.
Comment tu en es venue à avoir cette idée de rester, de vivre là-bas?
J'ai tombé sur un projet. J'ai rejoint un projet qui s'appelle l'Anvers. Et j'ai commencé à faire partie de l'équipe. Et j'ai tombé aussi amoureuse de le propriétaire de ce projet, Antoine Meyer. On a commencé à construire. Et moi, j'ai pris plutôt la partie de restauration. Et donc, j'ai créé la restauration là-bas. Et puis, c'était vraiment comme un terrain de jeu. On pourrait créer tout ce qu'on avait envie de faire. On est parti tout le jour, on a fait la surf à la mer, on est rentré, on a mangé des tagines, on avait des voyageurs de partout, on accueillait de gens de partout, on avait des bénévoles qui nous apprenaient 1000 choses, on a travaillé sur l'écologie, on avait des toilettes sèches, j'adore les toilettes sèches, maintenant on peut parler de pipi et caca et de compost toute la journée. C'était juste tellement différent de ma vie en Australie. Et j'avais l'impression à l'école, on te parle toujours de l'université, de plusieurs chemins que tu peux et tu dois suivre, mais on te parle jamais de créer un business. Et c'était avec cette business au Maroc que j'ai capté, tu peux avoir toutes tes passions dans un lieu. Et tu peux avoir cette partage de passions et c'était un peu l'université de la vie pour moi là-bas.
En Australie, petite fille, tu rêvais de quoi? C'était quoi tes rêves? Comment tu t'imaginais plus tard quand tu serais grande? Parce qu'il y a quand même un parcours assez atypique. Tu as beaucoup voyagé, créé un business au Maroc, aujourd'hui tu es en France. Est-ce que c'était déjà ton rêve, enfant, de vouloir partir et de t'ouvrir sur le monde comme ça?
Mon rêve, c'était d'être soit archéologiste, soit foreign correspondent. Comment ça se dit en français?
Un correspondant international ou journaliste, quelque chose comme ça?
Journaliste international. Parce que j'avais toujours suivi une journaliste internationale qui allait en Irak, elle allait en Asie, elle était toujours là quand il y avait l'action. Et je regardais cette femme, j'ai dit, maman, j'ai envie d'être elle. Donc j'ai jamais fait le journalisme, mais je voyageais un peu.
Mais il y avait quand même déjà cette envie de mouvement et d'action en tout cas.
Toujours.
Le Maroc, 7 ans, tu dis que tu as passé 7 ans là-bas. Qu'est-ce qui te reste de cette expérience? Tu me parlais de tagine, mais voilà, le Maroc, c'est quoi aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui reste dans ton cœur?
Le Maroc, pour moi, c'est Keltoum. C'est une femme que j'ai rencontrée là-bas, qui est devenue ma sœur, ma mère, ma meilleure copine, mon tout. C'est une femme extraordinaire, une femme berbère, qui m'a appris le berbère, un peu d'arabe, elle m'a appris la cuisine. Quoi d'autre? Les épices, toujours cette odeur des épices quand on rentre dans la médina. La sécheresse, ça c'est quelque chose que je pensais que j'aurais jamais apprécié dans ma vie, mais quand tu regardes le paysage, c'est complètement sec et t'as la poussière partout, mais c'est beau. Et j'aurais jamais dit que c'était beau il y a 10 ans, mais c'est ça, les images. J'ai toujours les images de flash. Un monsieur qui se balade avec ses ânes entre le désert et la mer, mais les images, c'est... Ouais.
Mais tu commences à me parler du côté humain quand je te demande ce que tu préfères. Tu me parles de Keltoum. Et c'est souvent dans le voyage, ce qui va rester, effectivement, c'est des odeurs, comme tu l'as très bien dit, des épices, hein, des images, mais souvent des rencontres. Je crois que c'est souvent pour ça aussi que les gens voyagent, c'est pour rencontrer des humains, se rencontrer dans notre propre humanité.
Oui, mais l'essentiel, c'est de partager le bonheur. Dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive de bien, ou on voit quelque chose de super beau, on tourne la tête et on cherche pour quelqu'un. Est-ce que tu as vu ça? Ça, c'est l'essentiel, l'humain et le partage de l'expérience. Et j'ai rencontré tellement de belles personnes au Maroc. J'ai rencontré aussi des personnes moins bien, mais ça s'oublie. Mais même notre rencontre de...
Tu dis, c'est le bonheur, le voyage, c'est les rencontres, et le rencontre, c'est de partager du bonheur. C'est quoi le bonheur?
Oh, c'est quoi le bonheur? Oh, mais Alex, tu touches en cette question, mais je sais pas. Le bonheur change tout le jour. Le bonheur, c'est de, c'est l'expérience, c'est de bonnes relations. C'est le bonheur, c'est le fait qu'on est toujours en train d'apprendre. Le bonheur, c'est la famille, le sourire, le soleil.
Follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Cara, il y a quelque chose qui me, je vais peut-être t'emmener un petit peu sur ce territoire-là, cette notion, le fait que tu sois australienne. Je m'intéressais à ça et à l'image que tu as. Beaucoup de Français ou de jeunes sont partis vivre ou faire une expérience avec le Working Holiday Visa en Australie. On rencontre peu d'Australiennes ou d'Australiens ici en France. Donc, comment les gens te perçoivent? Qu'est-ce que les gens viennent te raconter quand ils te parlent d'Australie?
Bah, déjà, ils pensent que je suis complètement folle, que j'habite. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'as quitté ton pays et la plage et la mer pour venir ici, surtout à Orbe, paumé dans la montagne? Et honnêtement, j'ai du mal à répondre à cette question parce que il y a 2 ans, j'ai dit oui, mais c'est la France, c'est beau, j'adore. Et après 2 ans et demi que je suis pas retournée en Australie, ouais, je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais il y a des choses qui sont tout petites que j'adore ici. Et c'est quelque chose que je pense que vous allez jamais comprendre. Mais déjà, la culture d'apéro Genre, quand on est invité chez quelqu'un pour manger, en France, tu seras invité pour 19h. Et tu arrives et tu vas prendre l'apéro pour au moins une heure et demie. En Australie, tu es invité à 19h. À 19h15, tu es à table en train de manger. Tu as fini à 20h30, tu repars chez toi. Et ici, il y a plus de temps, il y a plus de joie de vie. Tu as l'apéro. Oui, mais c'est génial. Et on a vraiment plus d'appréciation de choses. Chaque chose dans l'ordre, l'accord, c'est quelque chose.
Ça m'intéresse. Hein. C'est ça aussi que permet le voyage. C'est de s'ouvrir sur d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre, d'autres traditions, d'autres cultures. On parle d'interculturalité. Et c'est chouette de pouvoir expérimenter ça. Je sais que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai passé 2 ans au Japon, où j'étais aussi l'étranger qui vivait là-bas, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer nos modes de vie. Donc voilà, tu dis ici cette notion de l'apéro, ok ? Quoi d'autre ?
Moi j'ai mangé des escargots et des cuisses de grenouille, et franchement c'était tellement cliché, c'était tellement bon. Ah, quoi d'autre ? L'hiver c'est beaucoup plus beau ici. La neige, le changement de saison, qu'on a vraiment 4 saisons différentes ici. Et l'hiver arrive, voilà, on sort d'appareil à raclette. Il y a plus de culture. En Australie, il nous manque un peu de culture parce qu'on est un pays très jeune, sauf la culture aborigine qui est assez fermée. Et voilà, il y a un peu de conflit que je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Mais c'est la culture ici de chansons. Tout le monde connaît des chansons d'enfance qu'on peut tous commencer à chanter en soirée. On n'a pas ça en Australie. On n'a pas cette culture profonde.
Et pourquoi est-ce que l'Australie attire tellement les jeunes Français ?
La plage, le soleil, les gens sont ouverts. Je crois que c'est l'ouverture d'esprit, comment dire. On a beaucoup plus d'espace en Australie. C'est un grand pays avec moins de population. Et on est très accueillant, on est très chaleureux, on peut dire.
C'est vrai que quand on parle de l'Australie, c'est aussi compliqué de dire l'Australie parce que c'est très grand, c'est 15 fois plus grand que la France. Donc j'imagine que les gens à Sydney sont différents des gens qui vivent à Alice Springs ou que ceux qui sont sur Darwin ou ceux qui sont tout à l'ouest à Perth.
Je pense qu'il y a plutôt des différences entre les gens qui sont en ville et les gens dans la campagne. C'est un peu la même chose en Australie, on n'a pas une différence d'accent. Tu vois, en France, tu vas dans le nord, tu entends, il vient de nord, tu vas à Marseille, tu entends l'accent de Marseille. Et en Australie, on entend uniquement vraiment l'accent de campagne et la ville. Et je crois que c'est un peu près la même chose avec les cultures. Parce que, comme je dis, ça fait que 200 ans, on n'a pas encore eu le temps d'écrire la culture dans chaque coin.
Et qu'est-ce qui te manque quand tu es ici, que tu n'as pas, mais que tu as en Australie ?
Ah, mais je vais dire la plage de nouveau. La plage, la famille, le barbecue, le fait que les gens sont un peu plus ouverts, un peu plus, je peux pas dire plus facile à parler avec, mais de sentir un peu plus à l'aise, cette feeling juste de sentir vraiment chez moi, ça me manque un peu.
Le barbecue, c'est vrai qu'il y a toute une culture autour du barbecue. Tu peux m'en parler un petit peu de cette culture-là?
J'adore. De culture. Comme j'arrête pas de dire, on n'a pas de culture, mais je vais y trouver de culture en Australie. Vu qu'il fait chaud tout le temps, quasiment tout le temps, et il fait beau, on sort dehors, on mange du barbecue tout le temps, on boit la bière. Et en fait, c'est ce qui est top quand tu voyages en Australie. Tu as des barbecues gratuits partout. Tu vas dans un parc, il y aura un barbecue gratuit à gaz. Tu appuies sur le bouton. Normalement, si les gens ils sont respectueux, c'est propre, c'est prêt pour toi. Et donc, tu peux cuisiner. Tu as la mer à 20 mètres, tu as un barbecue, tu ramènes ton filet de kangourou, tes saucisses et voilà. Donc, pourquoi pas?
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cara la voyageuse, donc on a parlé un peu de la Pologne, où c'est ta première approche en Europe. Hein. Tu as quitté l'Australie pour venir en Pologne voir ta famille. Tu t'es retrouvée en France, au Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu as pu explorer sur cette planète ?
J'étais au Japon pendant 3 mois. Ça m'a intéressé quand tu as parlé de Japon. J'avais la chance qu'en fait, on avait des bénévoles chez nous au Maroc. et qu'ils ont ensuite réparti au Japon, ils ont ouvert un guest house. C'était un ski in, ski out à côté de... c'était dans les Alpes japonaises. Et oui, ils m'ont accueilli pendant 2 mois et demi, 3 mois et j'ai fait la cuisine pour eux en Japon. Et en fait, ils sont de pro riders de snow. Donc j'ai appris à faire du snow dans la poudreuse en Japon. Mais quelle chance de vie. Et ensuite, j'étais en Malaisie. Et je tombais que ça, c'est ma cuisine préférée du monde en Malaisie. Parce que tu as la cuisine indienne, la cuisine chinoise et la cuisine malaisienne. Tout à la fois. Et c'est incroyable. Et j'étais aussi en Indonésie. Parce que j'ai une copine qui a une maison de famille en Indonésie. Et puis, j'ai voyagé un peu en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Tchèque, et voilà.
Le mélange des saveurs a beaucoup d'espace, d'importance dans ta vie. Hein. Je vois que la restauration, le côté culinaire revient beaucoup sur ces 10 dernières années.
Bah, pour moi, avant, quand je voyageais, je choisis chaque pays en fonction... je choisis mes voyages en fonction de cuisine. Comment dire, donc j'ai choisi la Malaisie parce que j'avais entendu des choses de la cuisine en Malaisie. Le prochain grand voyage que j'ai envie de faire, c'est en Inde et j'aimerais faire un tour de street food. Et je sais, je vais tomber super malade. Ça, c'est déjà prévu, mais je vais goûter tout ce que je vois et de vraiment découvrir comment faire la vraie cuisine indienne de cuisine de rue, de street food. La cuisine, la nourriture, c'est ma passion depuis 15 ans, on peut dire. Donc, c'est essentiel parce que quand on voyage, quand on va chez quelqu'un, pour moi, le cœur de la maison, c'est toujours la cuisine. C'est là qu'on réunit autour d'une table, on a plus de choses, on papote, on parle entre nous. La cuisine, pour moi, c'est la base de la vie. C'est toujours le partage. Même quand on voyage et on n'arrive pas à se comprendre, on peut partager un repas, on peut partager de petits mots, de petits saveurs, de choses comme ça.
La première chose que tu vas faire quand tu retourneras en Australie, c'est quoi?
Je vais faire le plus grand câlin que je peux à ma maman et mon père parce que ouais, ça fait très longtemps. Et ouais, je vais passer une journée au soleil, complètement au soleil à la plage.
Tu habites où là-bas?
J'habite près de Brisbane, dans la montagne. C'est de montagne semi-tropicale. Juste à côté de la ville. Et on est assez gâtés parce que c'est une montagne et on a quand même une vue sur la plage. Donc, on est un peu le deux. Et peut-être une des premières choses que je vais faire une belle balade dans la forêt tropicale là. Et j'ai tellement peur que je vais rentrer et je vais avoir vraiment peur des araignées et des serpents. Parce qu'ici, on s'adapte aux gens qui disent non, les araignées, les serpents, les requins, c'est effrayant. Et pour moi, avant, ça faisait partie de vie. Et maintenant, ouais, j'ai peur de rentrer et d'avoir vraiment peur de ces animaux.
Comment est-ce qu'on s'intègre dans un pays qui n'est pas le sien, dans une culture qui n'est pas la sienne? Comment ça s'est passé pour toi, ton intégration ici en France? Qu'est-ce qui a été facile et qu'est-ce qui a été difficile?
Oh, il faut la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut accepter le fait que des fois tu ne vas pas comprendre, des fois tu seras mal à l'aise. Et mais ce moment va passer. Qu'est-ce qui m'aidait? C'est ce qui m'aidait beaucoup, c'est que j'avais une copine qui m'invitait dans un groupe Facebook pour faire du roller. C'était une fois par semaine, on fait une sortie roller et on est une vingtaine sur le groupe Facebook. Et avant, une fois par semaine, on est sorti soit des gens en roller, vélo, skate, tout ce qui est avec de roues. Et c'est avec cette groupe que petit à petit, je rencontrais mes propres amis ici. J'ai créé de vraies amitiés. Mais c'est pas si facile. Et même au bout de 2 ans et demi, ce sont pas des relations qui sont faites depuis l'enfance. Ce sont pas des gens que je connais depuis 10 ans. Donc, ce sont des relations qui ont moins d'expérience, moins de vie derrière. Donc, ouais. Ça peut être difficile.
Et qu'est-ce qui a été facile?
Oh, qu'est-ce qui est facile? Oh, bah en Alsace on a du vin, hein? Donc il y en a de bonnes brasseries, donc on peut aller boire un coup et puis tout est un peu plus facile. Hein?
Cara, merci à toi.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regard d'ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous.